Europe 1.
Des clics et des claques.
Bérangère Bonte.
Nous revoilà, on est ensemble jusqu'à 22h30. C'est la partie culture de Des clics et des claques avec un événement ce soir et des chiffres qui vont vous donner le tournis. 45 ans de carrière, 100 millions d'albums, 47e tournée, 4 victoires de la musique. On est avec Michel Sardou jusqu'à 22h. Sa tournée se prolonge pour les 45 ans de carrière. Donc, il sera à l'Olympia du 7 au 12 juin. Il y a toujours le double best-of qui est en vente. On est là pour une heure donc avec lui. On en est ravi. Et on se penchera aussi sur ce que le web a retenu de tout ce parcours avec Christophe Comte, que je salue également.
Bonsoir.
Qui vient d'entrer dans ce studio, journaliste aux Inrock et sentinelle du web de cette émission. Je vous donne quand même brièvement le programme après, pour la dernière demi-heure après 22h, notre demi-heure coup de cœur comme chaque soir. Pour la musique, on sera avec Émilie Gassin, tout premier single sorti il y a quelques semaines, A Little Bit of Love. Et puis le coup de cœur de Diane Chénouda pour la dernière exposition Pinot à Venise, et on aura au bout du fil le directeur du Palazzo Grassi, Martin Bettenau. Voilà, c'est le programme, et tout de suite donc, Michel Sardou.
Europe 1,
des clics et des claques.
Bonsoir Michel Sardou.
Bonsoir.
On est ravis de vous accueillir.
Merci.
Vous allez bien ?
Je vais très bien.
Vous êtes heureux ?
Très.
Qu'est-ce qui vous rend heureux ?
Tout. Tout va bien. Ce qui m'en rend heureux, c'est que j'ai fait une très belle première partie de tournée. Parce que au départ, pour vous dire la vérité, je craignais un peu le remember, le retour en arrière depuis 40 ans, les chansons, les grands succès, etc.
Vous l'avez pourtant sans doute fait à plusieurs reprises au cours de votre carrière.
Non, je remets. Jamais. Il y a des chansons incontournables qu'on remet comme Codemara ou certaines choses, mais je préfère mettre en général les nouveautés. Et je craignais un peu ça. Et puis, en fin de compte, les gens adorent ça. Ils sortent, ils sont contents, ils ont la banane, ils ont entendu les succès qu'ils leur
appellent. Vous craignez leur réaction ?
Je pensais que ça allait les emmerder. Moi, je m'étais complètement planté. Je me suis dit, bon, mais au fond, ils vont me dire, mais pourquoi tu fais pas ce que t'écris, quoi.
Vous pensez que vous allez emmerder le monde avec Connemara ?
Oui, c'est des conneries comme ça. Enfin, bon, on se met des choses dans la tête, on sait pas pourquoi. Et puis, finalement, ce qui m'a fait plaisir, c'est que d'abord, on a fait énormément de monde. Donc, puisque c'est pour ça qu'on prolonge.
Trois Bercy pleins, notamment.
Partout en province. Et surtout la banane, à la fin, ils étaient contents. Ils étaient heureux d'avoir réécouté ce répertoire. Et ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est que, bien entendu, j'ai la majorité à mon âge dans la salle, ce qui est tout à fait normal. Mais par contre, il y avait beaucoup de jeunes. Que je n'avais pas d'habitude.
Quand vous dites jeune,
jeune, c'est de 15 à 25 ans pour moi. C'est jeune. Et ils venaient voir, je ne sais pas s'ils venaient voir le dinosaure ou s'ils venaient voir ce qu'ils avaient entendu quand ils étaient petits dans la voiture de leurs parents. Mais ça m'a fait plaisir.
Vous dites ça parce qu'on vient d'en parler avec Jules
à
l'instant.
Non, mais c'est vrai.
Non, mais c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous et de tous ceux qui nous écoutent, il y a effectivement ce phénomène de personnages omniprésents durant l'enfance. Alors, ceux qui ont 15 ans ou 20 ans aujourd'hui, il y a peut-être un autre phénomène qui s'appelle, Starac. Je vous dis le fond de ma pensée, pas plus tard que ce matin, ma nièce qui a 22 ans, chantonnait, qui j'ai mis votre disque, chantonnait, mais connaissait toutes les paroles de titres qu'elle n'avait aucune raison de connaître. Et me dit, mais oui, bien sûr.
Et ils les connaissent. Et c'est ça qui m'a surpris, qui m'a fait plaisir. C'est-à-dire que moi, je me dis, ces gens-là, parce qu'on a tous, notamment, moi j'ai eu 20 ans, 15 ans aussi. Et à l'époque, mes chansons n'étaient pas les chansons de mon père. C'était pas du tout les mêmes. J'aimais autre chose. J'aimais les Birds, j'aimais les Beatles, j'aimais autre chose. J'aimais les Rolling Stones. Mon père comprenait rien du tout. Ça l'énervait un peu. Et je me suis dit, ces gens-là ne connaissent pas mes chansons. Et en fait, je les vois, ils chantent tous. Si à la limite, je poserais le micro, j'ai rien à faire. Enfin, j'exagère un peu, mais.
Mais cette impulsion des télécrochés et d'une Star Academy, par exemple, est importante. Enfin, vous mesurez ça à quel point?
Non, je m'en rends pas compte. Honnêtement, je m'en rends pas compte.
C'est un bon souvenir, ça?
Et j'ai pas eu de chance, en fait.
C'était la quatrième saison.
Je sais pas, mais je devais chanter en duo avec une jeune fille. J'ai complètement oublié le nom. Je m'en pardonne. Et ça chantait pas bien. Donc, à ce moment-là, on est en porte-à-faux parce que on veut l'aider, mais on peut pas. Parce que, si vous voulez, si elle monte pas, elle monte pas. Si elle est bas, elle est bas. Elle fera jamais la note. Ou au moins, on fait la note, on passe bien dessus. Sûr, mais bas, c'est fini. Alors, j'étais un peu... voilà, j'étais un petit peu gêné. Je peux pas vous dire que j'ai été emballé
parce qu'elle, elle
par...
avait un enjeu qui était...
J'étais pas emballé par ça. Je préfère entendre quelqu'un seul qui vient chanter son répertoire à elle, à lui, jeune... ce répertoire de jeune homme ou de jeune femme qui débute, même si c'est un peu maladroit, même si la voix n'est pas encore placée, même si les mots ne sont pas encore trouvés, même si elle ne se connaît pas encore ou il ne se connaît pas encore, que d'aller faire un duo avec quelqu'un où ça va être difficile pour elle parce que j'ai des tonalités très, très hautes. Donc pour une femme, ça veut dire qu'il faut, qu'elle doit être presque soprane. Donc ça m'a pas...
souvenir impérissable.
Non, impérissable.
Mais vous êtes amené parfois à... Vous êtes questionné, je ne sais pas, par des fans qui vous demandent des conseils, justement, pour chanter.
J'ai rencontré un jeune garçon que j'aime beaucoup, qui est un jeune débutant, qui commence à faire des petits trucs, qui s'appelle Nathan. Il se complique un peu la vie avec les textes. Il pinaille un peu. C'est très intello, c'est très pour une chanson, faut pas être trop intelligent. Faut dire les choses vite, faut tout dire vite, mais on a quatre lignes pour les attraper.
Ça, c'est le fruit de 45 ans de carrière, si je peux me permettre, parce que ça va sans doute évoluer au fil.
On n'attend pas la fin d'une chanson. Vous avez remarqué, c'est tout de suite, elle vous accroche. Vous avez quatre lignes. Puis alors après,
on est dedans, on n'y est pas.
Vous dites tout en 25. Mais en fait, c'est les quatre premières lignes qui comptent.
Et alors, ouais. Le Nathan, vous lui avez dit, tu vas simplifier,
non,
mon garçon.
Non, j'ai rien dit du tout. C'est merde. Ça faut surtout rien dire. L'expérience ne sert à personne.
C'est vrai.
Non, ne sert à personne.
Vous dites ça parce que ça vous est arrivé qu'on vous.
Bien sûr, j'ai écrit des conneries énormes.
Qu'on vous tente de vous dissuader.
Jusqu'à ce que je me trouve. Parce que les gens ne pensent pas que j'ai écrit. Quand j'avais 19 ans, 20 ans, j'écrivais entre 8 et 10 chansons par jour. Non pas pour moi, mais pour tous les autres aussi. J'étais nègre, donc j'étais payé pour faire les adaptations. Donc j'écrivais comme ça venait. Et il est évident qu'à 19, 20 ans, une chanson, bon, ce n'est jamais qu'une chanson. On ne se rend pas compte de la puissance des mots. On ne se rend pas compte de ce que peut créer une phrase, ce que peut provoquer une phrase. Donc je m'en foutais un peu. J'écrivais, je faisais mon boulot. Moi, j'étais payé pour... Et puis après, quand j'ai écrit pour moi, c'est pareil. J'écris très vite. Et puis je me suis rendu compte très vite que c'est tout de suite l'accrochage. Mais il m'a fallu des années quand même d'écriture avant de savoir ça. De ne pas trop compliquer la chanson, quoi.
Bon, je sens, Michel Sardou, que ça doit trépigner de l'autre côté du poste. Les gens qui nous écoutent ont envie de vous entendre chanter. On va le faire juste après une petite pause. Michel Sardou, dans tous les titres que vous avez écrits, on vous en a sélectionné une petite série et on va essayer en quelques minutes de se replonger dans...
J'ai horreur de ça.
45 ans. Mais je pense que ceux qui nous écoutent vont adorer, ils vont danser chez eux.
Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. Ne m'appelez plus jamais France, la France elle m'a laissé tomber. Dans les villes de grande solitude, quand l'alcool s'est évaporé, c'est toujours la même eau qui coule, c'est toujours le raisin qui saoule, t'es au fourneau. Même un bon coup et rigoler entre nous sur les airs populaires. Rire du sergent, la folle du régiment, la préférée du capitaine des dragons. C'est un cri, c'est un chant, c'est aussi le désert et le vent.
Africa 2, Africa. C'est elle qui plaît dans les marigas.
ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Le ciel irlandais était en paix. Marina plongée nue dans un lac du Connemara. Je ne sais plus comment finissait la chanson. J'ignorais qu'elle avait un nom. Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est la rivière de notre enfant. Est-ce une maladie ordinaire, un garçon qui aime un garçon? Le monde est sourd comme Beethoven, sourd à l'amour, hurlant sa haine.
Michel Sardou qui était hyper attentif en écoutant tout ça, vous dites j'aime pas ça du tout, mais je vous ai vu rire à la mémo qui coule.
Oui.
Pourquoi?
Bon, parce qu'on l'a écrit n'importe comment, on l'a écrit... on l'a écrit à la campagne, on avait bien picolé, on était en pleine forme. Et puis on avait cette putain de musique, on savait pas quoi mettre, et puis c'est venu comme ça, aller au fourneau de Liverpool, on a tout mélangé. Mais c'est une chanson très sympa, que je vais remettre d'ailleurs. Qui a très bien marché.
Vous aviez picolé, vous faites une chanson sur la même mot qui...
Oui, c'est ça, c'est pour ça qu'on m'a fait rire.
Vu, Christophe.
C'est ça qui m'a fait rire, justement.
Et alors, entre rire et désespoir, vous disiez la dernière, Beethoven, là, ça, pour le coup,
bah, c'est... Je l'ai raté, on l'a un peu raté, Beethoven. C'est pas...
Qu'est-ce que ça veut dire, raté?
C'est-à-dire qu'on est sorti du sujet, en fait. On n'a pas été au bout de ce que je voulais, je suis pas arrivé. Très souvent... Ce qui se passe quand on écrit, c'est assez étonnant. Enfin, je ne sais pas si c'est pareil pour les autres, mais pour moi, très souvent, la rime amène l'idée suivante. C'est-à-dire, je ne fais pas un plan. Je n'ai pas une chanson construite dans ma tête, déjà, quand j'écris. Donc, c'est la première ligne qui compte. Le monde est sourd comme Beethoven. Je voulais aller plus loin. Je voulais aller le faire plus... Sourd à plein de choses, sourd à tout ce qu'on est sourd.
Vous partez avec cette phrase ou vous partez avec l'idée un peu générale quand même de tiens,
non,
je vais faire une chanson sur...
Sourd comme Beethoven, mais bon, sourd comme Beethoven. À partir de là, on est sourd à quoi? On est sourd à plein de choses. Mmh. On passe à côté de plein de choses. Et au fond, j'ai pas plein de choses. J'ai pas été au bout de mon truc. Mais bon, ça s'appelle des chansons. Semi-raté, quoi.
Semi-raté. Allez, on vous pardonne, hein, sur 300, à peu près. Je pense
oui.
Comment fait-on un... Alors, cette tournée s'appelle Les Grands Moments numéro 2, je l'ai bien dit. L'album également. Il faut choisir comme ça une vingtaine de titres dans une carrière aussi large. Il y a des... C'est une carrière qui n'est pas un long fleuve tranquille, c'est peu de le dire, et on reviendra sans doute sur certains passages. L'idée est d'être représentatif de tout le fil de la carrière, ou vous arrêtez sur des grands succès, voilà.
Sur les grands succès. Leur donner les grands succès, et si possible, ne pas éviter les chansons qui ont fait polémique à une époque, parce que mal comprises ou mal écrites, peu importe, c'est la même chose.
Il y a les villes de la solitude, on en parlera tout à l'heure.
Oui,
par exemple,
les villes de la solitude, j'ai pas trouvé ça mal écrit. Ça a été mal compris, mais bon, tant pis. Ça arrive souvent. Ça m'arrive pratiquement.
Oui, mais quand vous dites mal compris,
J'ai des réactions. J'ai toujours eu des réactions violentes. Mais mon Dieu, après ça se calme. Maintenant, je les chante aujourd'hui. On dit bon, on comprend que c'est pas moi qui parle. C'est un personnage. Bon, on rentre sur scène, on est un personnage. On est maquillé, on est habillé, on est autre. On joue un personnage. On n'est pas. D'ailleurs, j'ai fait une chanson qui s'appelle Salut, où je dis je suis pas l'homme de mes chansons. Je ne suis pas non plus ce que j'écris. Mmh. Mais bon, ça leur est passé au-dessus. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on disait?
Comment je choisis mes chansons, y compris celles qui...
Alors, je choisis les chansons en fonction de leur notoriété et de l'impact qu'elles ont eu, et qui passent une bonne journée. Alors, sans éviter les polémiques, je ne veux pas non plus alourdir le tour de chant avec des chansons trop plombées. J'ai fait une chanson, par exemple, « Ça va plus vite que vous croyez », qui est une chanson que j'adore, qui était un petit peu en avance sur ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire on perd son boulot, on perd sa femme, on perd sa maison, on se retrouve dans la rue. Ça va beaucoup plus vite que vous croyez. Mais j'ai pas envie de mettre ça maintenant, ce que je veux que ça soit...
Le contexte, vous l'interdisez à cause du contexte.
À cause, parce que je veux leur faire plaisir. C'est une soirée de plaisir. Je voudrais que pendant deux heures et quart, ça dure le tour de chant, bon, on oublie un peu ces emmerdes, quoi. On passe un moment avec moi. Parce que très souvent, les gens qui ne m'ont jamais vu sur scène pensent que je suis un menhir derrière un micro, comme ça. Que je ne plaisante pas, que c'est pas amusant, que c'est un mec qui fait la gueule, c'est un petit bon, un peu un genre de gabin ronchon. C'est pas du tout ça, on se marre beaucoup. Donc, j'ai pas envie d'aller rechercher des trucs où d'un seul coup ça peut mettre un malaise, ou alors il faut que je m'explique. Je m'explique jamais sur scène. Sauf quand j'ai raté une chanson, je le dis pourquoi, où et comment, mais en me foutant de moi, en me moquant de moi, c'est de l'autodérision, c'est pas grave du tout, ça les amuse.
C'est de la légèreté que vous voulez leur...
Bah voilà, j'ai envie de leur pas faire passer une bonne soirée de deux heures, ils viennent quand même pour ça.
Mais là aussi, dans votre parcours, il y a eu des moments où précisément vous n'étiez pas dans cette optique artistique même.
Si, je l'ai toujours été. Simplement, je vous dis, il y a plusieurs étapes. Jusqu'à l'âge de 25 ans, j'écris d'une certaine façon. Après 25 ans, j'ai changé ma façon d'écrire, mes sujets. Après, entre 40 piges, j'ai compris... entre 40 et 50, j'en ai fait d'autres, et maintenant j'en ai plus de 60, j'écris autrement. Vous savez, c'est par période. Aujourd'hui, par exemple, je m'intéresse beaucoup plus à la qualité du son, à la qualité du texte, bien sûr, toujours. Raconter quelque chose, raconter une histoire, mais surtout, la mélanger, il faut que le son et la note soient vraiment ensemble, si vous voulez. Bon, alors qu'avant, ça coulait comme un fleuve, comme ça je ne m'en lisais pas.
À propos de fête, on vous a sélectionné comme premier extrait qu'on va écouter en intégralité, la Java de Broadway.
Oui.
Et là précisément, on est comme ça, justement, en sortie à Broadway, avec une forme de comparaison de ce qu'est la fête là-bas.
Je ne me rappelle plus, à vrai dire, c'est une idée de Delanoë. C'est Delanoë qui m'a, comme toujours, me balancé trois lignes sur mon oreiller et puis me disait « démerde-toi ». Au début, je n'ai pas compris ce qu'il voulait. Je n'ai pas compris la Java de Broadway au début. Quand il m'a mis, quand on fait la Java le samedi à Broadway, ça swing comme un meudon. J'ai répondu « tu me prends pour un con ».
C'est bon, tout le monde sait que c'est pas.
J'ai téléphoné, bon, j'ai dit « qu'est-ce que c'est que son histoire ?» Il s'y fait un truc, tu sais, un peu... on fait un truc marrant, fait un truc un peu rythmique, fait un... Bon, et on s'y est mis, on a pondu la Java de Broadway. Entre nous, la Java de Broadway, c'est sympa, on danse dessus, on se marre, on s'amuse. Mais je n'irai pas à l'Académie française avec ça.
Non, bon, on va y aller quand même dans des clics et des claques. Hein. Michel Sardou.
Les nanas de Broadway, qui plaît. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, on dort sur les trottoirs. Quand on nous sort de là, c'est à coups de balai, à grands coups d'arrosoir. Et on ne sait plus à midi si l'on est à Clichy ou en Californie. On y va, pas besoin de Beaujolais quand on a du bonbon. Bon, 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 c'est peut-être pas la vraie de vraie, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît. Elle est teintée de blues et de jazz et de rock. C'est une Java quand même. Quand on est dissous douce, quand les vers s'entrechoquent, on ne voit plus les problèmes.
La Java de Broadway, on est en 1977. Michel
Sardou. Europe 1.
Des clics et des claques.
Bérangère Bonte. En 77, je voudrais que vous écoutiez cette archive formidable que nous a retrouvée Sylvaine Denis aux archives d'Europe 1. 14 octobre 77. Un coup de fil que vous. Encore. Un coup de fil que vous passe Hubert, qui était animateur que vous connaissez sur cette antenne et qui vous appelle en direct sur Europe 1 ce matin-là. Ça vous dit rien ? 14 octobre 77. On écoute.
Allô ? Michel, mon petit gars.
Pas de ma gueule, pourquoi j'ai pas dormi pendant deux jours ?
Ben je sais que t'as sommeil. Je te signale qu'on est sur l'antenne, là, mon gars.
Pardon, merde.
Bon, alors t'as la bonne voix du jeune marié qui... t'as pas besoin de raconter si t'es couché tôt en ta vie de garçon ou pas. Dis-moi seulement bonjour, tout le monde va comprendre. Vas-y. D'accord. Impeccable. Alors, je voudrais pas te brusquer, mon petit minou, mais je te signale que pour l'instant, il est 10h et 18 minutes. Tu te maries dans 40 minutes, mon petit gars.
Ah, oui.
Ouais, tu te maries dans 40 minutes, mon petit gars.
Je dis pas, pourquoi personne m'a réveillé. Si je bois mon café, je te bouscule, je me lève,
ouais.
Je te bouscule, je bois mon café, je me lève tout de suite. À tout à l'heure.
C'est incroyable ce genre de moment de radio. Vous vous souvenez de ce moment-là ?
Oui, maintenant je me rappelle. Quand vous me disiez la date, ça ne me disait rien, mais là je me rappelle très bien de ça. On avait fait une soirée pour Otam. On avait fini, comme des malades et effectivement, il a bien fait de me réveiller parce que j'aurais pas été.
C'est ahurissant ce genre de moment de radio parce que ça n'existe plus, c'est même pas envisageable. Je veux dire, on est. Mais parce qu'on ne dérange pas. Vous pensez vraiment qu'on appelle un Michel Sardou un matin, pas, le matin si de son mariage.
C'est un truc amusant. Oui, pourquoi pas.
Ça vous choquerait pas.
Oh non.
Faites gaffe en disant
ça. C'était marrant.
Ça va,
il y avait une ambiance justement.
Certains.
Mais à l'époque, avec l'Europe, j'avais des liens très. Que je renie,
mais
que
oui.
Je relis là maintenant.
Mais c'est ça qui est assez savoureux.
Donc je faisais
d'entendre.
Partie de la maison en fait. Mmh. Donc c'était tous des potes, c'était Coluche, c'était Hubert, c'était tout le monde. Donc qu'Europe m'appelle à 7h du matin quand je suis encore dans les vapes et que truc, bon, ça ne me dérangeait pas beaucoup.
Bon, dans le genre savoureux aussi, on avait dans cette émission il y a quelques mois, le jour de Noël d'ailleurs, un monsieur qui s'appelle Pierre Billon.
Oui.
Qui a écrit pour vous un certain nombre de titres et non des moindres.
Oui, bon. Un très grand ami. Et, hein, il a été mon musicien, il a fait des premières parties avec moi. C'est un homme que j'aime beaucoup et qui manque d'ailleurs.
Et qui vous aime beaucoup aussi et qui racontait très bien la façon, votre collaboration d'une manière générale et ces titres que vous avez fait ensemble.
Sardou, j'ai fait des beaux titres pour Michel. Ouais.
Quel autre ?
J'avais fait 10 ans plus tôt, j'ai fait Je vole, c'est moi qui ai fait Je vole. Oui. J'ai fait quelque chose qui s'appelle Je ne suis pas mort de Je dors, qui était le titre préféré de président Mitterrand. Voilà, donc on fait des choses intéressantes quand même.
Et écrire pour Sardou, ça se passe comment ? C'est des exigences, je ne sais pas, il a des idées. idées, il y a des envies ou ça...
Mais le meilleur auteur pour Sardou, c'est Sardou, ça c'est sûr. Après, il y a eu Delanoé, Lemel, moi, plein de gens. Mais enfin, le meilleur, c'est lui. C'est-à-dire que les idées de base, c'est lui. Les idées qui peuvent choquer, c'est lui. Après, tout le monde se met autour d'une table et voilà, et on y
celle-là,
va.
Celle-là, par exemple, comment elle
est? Fin des 80, on était un paquet, on écrivait chacun un truc. On venait, on était en train de manger, il vient un coup. Et c'est là.
Ah ouais, c'est grand brainstorming. C'est donc toujours autour de la table, dans un moment,
oui, dans un moment
où ça picole un peu et
moi,
allons-y.
Je pense qu'on a une chance magnifique, on fait un métier merveilleux pour ça. C'est que je n'aime pas les écrivains solitaires de chansons. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de talent, ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de bonnes chansons. Mais je trouve que quand on était tous autour de la table, Pierre Delanoé, Lemel, et j'en passe, il y en avait d'autres... On se balançait des idées comme ça. T'as lu dans le journal ce matin, il y a un truc, je me rappelle de Vladimir Ilitch, par exemple. Mmh. Il y a, je crois que c'est, comment il s'appelle, Bourterre. Bourterre qui me dit, tu te rappelles quand les Russes sont entrés à Budapest, j'ai vu un truc hier à la télé, il y avait un reportage là-dessus. Les Russes sont entrés à Budapest et il y a un môme qui écrit, Lénine, réveille-toi, ils sont devenus fous. Mais j'attendais les mecs, on fait la chanson, mais tout de suite. On va se démerder pour trouver un moyen, un biais, pour trouver ça. Et c'est venu à table, comme ça, en discutant. Le lendemain, on avait la chanson. Alors, chacun avait apporté un truc. Après, je faisais le tri, je montais. Voilà.
Vous voyez, quand je vous disais que ça a quand même sérieusement évolué selon les périodes, là, vous aviez pas peur de faire mal à la tête à vos spectateurs, plutôt.
Ça fait pas mal à la tête. Ça.
Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'entre la Java de Broadway ou les balles populaires et ça, on a quand même un vrai grand écart.
Il y a 15 ans d'écart, quand même.
Il y a vraiment eu, comme ça, des périodes où vous aviez envie de dire des choses.
Écoutez, je vais vous dire une chose qui va vous décevoir. Je suis sûr que je vais en décevoir beaucoup. Les chansons viennent toutes seules. Les chansons sont dans l'air, les idées sont dans l'air. Il m'est arrivé d'écrire une chanson entière, j'étais vachement content. J'avais fait un texte formidable, j'avais fait un truc génial, sauf que c'était exactement la même case dingo. On a vu la même idée en même temps. Les idées sont dans l'air.
Vous pensez à une en particulier, là ?
Oui, oui, le titre ne m'en revient pas. Je ne l'ai pas sorti, évidemment.
Ouais.
Parce que d'un seul coup, je me suis dit, mais attends. Mais justement, comme on était à table, il me dit, qu'est-ce que tu nous racontes, là ? C'est un truc de Charles. J'ai commencé un truc de Charles. Oui, il a fait une chanson là-dessus, sur le même sujet, ou exactement le même sujet, écrit différemment, mais c'était le même sujet. C'est comme ça. Les idées sont dans l'air. Si vous ne prenez pas la décision de dire, tiens, ce matin... Je vais les faire chier.
Ouais.
Voilà, je vais leur dire, ce qu'on veut.
Non, mais vous êtes dans un état où vous percutez sur Lénine à une période où, sur la même chose, vous auriez pas, vous seriez pas parti sur une chanson. C'est ce que vous dites. Là, vous avez plus envie, notamment,
je suis parti sur la phrase que j'ai trouvée formidable, ouais. Que je connaissais pas à l'époque. Parce qu'elle a quand même quelques années, la chanson. Je la connaissais pas. Je savais pas qu'il y avait un môme qui avait écrit sur un mur. Lénine, réveille-toi, ils sont devenus fous. Et je trouvais que c'était un sujet qui pouvait être intéressant à faire.
Vous en avez mis deux versions, d'ailleurs, dans le best-of de Vladimir Ilitch. Il y a une nouvelle version qui a été enregistrée en 2012.
Parce que dans mon récital actuel, dans ce que je fais aujourd'hui, j'ai refait les orchestrations. Mm-hmm. Je n'ai pas déformé les chansons, parce que j'ai horreur de ça.
Et il y a la version de 83, voilà, je viens de trouver.
Parce que si je fais la Maladie d'amour en jazz, j'emmerde tout le monde. Si je la fais, il faut garder l'âme de la chanson. Il faut que les gens, à la quatrième mesure, reconnaissent la chanson. Seulement, j'ai changé les sons, parce que ce qui a évolué, c'est pas les chansons tellement, un petit peu les instruments, la façon de les enregistrer, mais c'est la couleur des sons, la couleur synthétique des sons, fait que maintenant on est habitué à une couleur de son et que l'orchestration vieillit. Donc j'ai refait un...
Et votre public, vos fidèles, vous pensez pas, sont
non,
justement...
Non, ils étaient très contents là, parce que je vous dis, je la déforme pas.
Ouais.
Simplement, je modifie les sons. Je corrige une phrase aussi, parce qu'il y a des phrases, il y a des mots qui vieillissent, il y a des mots qu'on n'emploie plus, il y a des choses qui paraissent, ou d'un coup, je me dis pourquoi j'ai écrit ça, c'est con, je pouvais le dire autrement, et je le dis autrement aujourd'hui. Voilà.
Un mot sur une chanson qui a fait le tour du monde, mais pas uniquement, même pas d'abord grâce à vous, qui est comme d'habitude, que vous avez laissé filer. Qu'on vous
non,
a proposé
j'ai pas laissé
avant
filer.
À
l'époque, j'avais pas la technique pour écrire des textes sur des musiques déjà établies, déjà construites. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours écrit mes textes librement, et c'est le musicien qui vient se coller dessus une première fois. Mmh. Et après, on essaye de couper, de s'arranger. Mais à l'époque, c'était en 72 ou 13, je ne sais plus, Claude et Revault m'ont mis sur le coup la chanson. Et je me suis retrouvé avec une musique entièrement construite, couplet, refrain, coda, machin, et je m'en suis pas sorti. Gilles Thibault s'en est très bien sorti, tant mieux pour lui, je le regrette évidemment, parce que si j'avais fait le texte, j'aurais une grosse voiture, mais j'en ai une quand même.
Oui, ça, vous n'êtes pas non plus en scooter.
Non, je ne suis pas dans la merde.
Ni en vélo.
Mais je veux dire, là, pour le coup, j'aurais... Mmh. Par contre, j'en ai fait une version personnelle, qui était différente de celle de Claude. Et d'ailleurs, je m'en amuse sur scène où j'imite Claude.
Vous avez retiré la fin ?
Non, j'ai fait un autre truc. J'ai fait une pendule au départ. Enfin, c'était un truc
ah oui,
assez,
alors y a ça
assez spécial. Et puis, j'ai dit à Claude, tu le fais trop Tamla. C'est pas Tamla, c'est lourd. C'est plus lourd que ça. Alors il dit, écoute, démerde-toi, je te fais un pari que tu te ramasses comme moi. Parce que ça avait pas très bien marché, la version de Claude. Enfin, ça avait marché, mais pas comme
dans
d'habitude,
un premier temps,
c'est le cas de le dire. Mmh. Et moi, ça a très bien marché. Bon, entre-temps, il faut dire qu'il y avait Sinatra aussi qui m'avait fait un coup de main. la version que j'avais faite était originale. Alors, on s'est barré, ça lui a coûté un dîner, on a passé une soirée formidable.
Mais au-delà de l'aspect musical de votre version, il y a aussi la fin. C'est-à-dire, vous, ça se termine, tu te déshabilleras, on s'embrassera. Ah mais non, mais dans la version qui est dans l'album-là, ils ne font plus l'amour.
Ah bon, maintenant ils font l'amour parce qu'au
et
départ
ils font plus semblant. Chez Claude François, comme d'habitude, on fera l'amour, comme d'habitude, on fera semblant.
Ouais, non, moi,
et chez vous, non, on s'arrête.
Moi, on fait l'amour. Baiser. Moi, on fait pas semblant. Non.
Bon.
C'est plus facile, quoi.
Il me semblait que c'était plus logique, mais
ouais, c'est plus logique. Que si on fait semblant de faire l'amour, je ne vois pas comment on peut faire semblant. Mais une femme, à la rigueur, je peux comprendre, mais un homme, c'est difficile. Pardon, excusez-moi.
Bon, on part sur le France. On est avec Michel Sardou jusqu'à 22h, émission spéciale ce soir avant l'Olympia et cette tournée qui continue.
Quand je pense à la vieille anglaise qu'on appelait le Queen Mary, échouée si loin de ses falaises sur un quai de Californie. Quand je pense à la vieille anglaise, j'en vis les épaves englouties, long courrier qui cherchait un rêve et n'ont pas revu leur pays. Ne m'appelez plus jamais France, la France elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté. J'étais un bateau gigantesque, capable de croiser Milan. J'étais un géant, j'étais presque aussi fort que l'océan. J'étais un bateau gigantesque, j'emportais des milliers d'amants. Quand je pense à la vieille anglaise qu'on appelait le Queen Mary, je ne voudrais pas finir comme elle sur un quai de Californie. Que le plus grand navire de guerre enfance, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté.
Le voilà, le France, celui de 75, hein, celui d'origine.
Ouais, je le trouve trop léger.
Trop léger,
je l'ai, rendu plus violent là pour cette tournée.
Ouais. Et il y a d'ailleurs donc sur l'album Best Of, le double album, la version de 2012 ouais, aussi effectivement. Ouais. Et vous me disiez quand on discutait là en vous écoutant que sur scène vous reconstituez le France en
avec
lumière.
Des lumières, ouais. On voit vraiment le bateau.
Avec un système.
J'ai un système nouveau dont j'ai l'exclusivité pour l'instant, excusez, mondial.
Mondial.
Excusez-moi du peu. Ça s'appelle les Vipers, les Microsoft Vipers. Et on n'a plus besoin de rien. C'est-à-dire que je suis sur fond noir. Jacques Rouvérolis fait un boulot extraordinaire. Nicolas Gilly aussi, le chef Ops. Et ça remplace tout, quoi. Alors, ne me demandez pas comment ça marche.
Je vous le demande pas.
Je n'en sais rien. Mais c'est absolument...
Mais ça vous plaît, ça,
ah, ça
de
ça
suivre
plaît.
Cette
et
partie-là
j'ai peut-être
là
avoir
aussi.
La nouvelle version de la nouvelle version encore. J'espère l'avoir là, mais je ne suis pas sûr.
C'est-à-dire la première n'aura même pas vécu que vous êtes déjà à la deuxième.
J'aurais déjà la deuxième.
Des clics et des claques sur Europe 1.
Bérangère Bonte.
Michel Sardou est avec nous à la prolongation de cette tournée pour vos 45 ans de carrière. Et ces 45 ans de carrière, ils sont très présents évidemment sur le web. Quel est votre rapport à l'ordinateur, à Internet? Est-ce qu'il vous arrive par exemple de taper votre nom dans une barre de recherche sur Internet?
Bien sûr. Oui, des fois j'achète des trucs, c'est très pratique pour acheter des trucs. Je lis les journaux sur Internet, je suis abonné à tous les journaux.
Tablette, tout ça, vous êtes sur
oui,
vous voyagez avec la tablette.
J'ai iPhone.
Mais votre nom, est-ce que c'est un exercice? C'est une question qu'on pose tous les soirs à nos invités.
Par exemple, vous ne savez peut-être pas, mais je suis propriétaire de chevaux et éleveur de chevaux de course. Donc je m'inscris au journal du galop, par exemple, qui concerne vraiment les professionnels. Bah, il faut que je mette mon nom. Est-ce qu'ils ne sont pas fous? Si c'est pas mon nom, si ce n'est pas un propriétaire éleveur, ça marche pas.
Et pour trouver ce qu'on dit de vous, et ce que renvoie,
ça, non,
ce vers
je,
quoi renvoie
savez,
votre nom.
Je suis pilote d'avion. Un jour, je lis, il y avait eu un accident très grave au décollage d'un aéroport avec un 747, et je lis une réaction d'un internaute qui visiblement ne sait pas piloter, dit un avion, un 747, par exemple, n'a pas besoin de mettre ses flaps pour décoller. Bon, s'il aimait pas, il décolle pas, je peux vous le jurer, je peux vous l'assurer. Donc j'ai vu ça, je dis merde, les mecs ils disent, alors quelquefois il y a des réactions très drôles, il y a des phrases des fois qui me font marrer, mais très souvent je suis déçu parce que c'est des gens qui ne savent pas trop de quoi ils parlent, ils vont pas au fond, ou ils sont pas au courant vraiment, alors je passe dessus comme ça. Et je cherche en fait la réplique drôle. S'il y en a qui sont marrants quand même, il y en a qui ont des bons esprits très 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 bien. Mais sur moi, je recherche rien.
Bon, les gens cherchent vos chansons très clairement. Vous savez laquelle la première recherche, c'est Je vais t'aimer.
Possible, je sais pas.
J'imaginais le Connemara, j'imaginais femme. Voilà.
Ça, je ne regarde pas ce qu'on dit sur moi.
Christophe Comte s'est penché sur tout ça, notamment les réseaux sociaux.
Oui, alors Michel Sardou, vous êtes abonné à Twitter depuis janvier 2012.
Mais j'ai jamais été.
Alors, c'est
pas
vous.
Je sais pas comment ça marche.
Un grand classique.
Je sais pas comment ça marche. Je suis con pour ça.
Encore une fois, donc c'est pas vous. Vous avez 669 followers, je vous l'apprends, et vous ne suivez vous pour votre part que 66 comptes. Je ne sais pas qui le fait pour vous, mais en tout cas...
Je fais quoi?
Vous suivez des comptes de gens, etc.
Ah, ça doit être Nicole Coulier, ça.
Alors, je vais vous dire à qui elle s'est abonnée en premier. Je ne sais pas si ça va vous faire plaisir ou pas. Les premiers abonnements, c'est Nadine Morano et Marine Le Pen. Alors, je ne sais pas s'il faut en tirer des conclusions. Ensuite, c'est Jean-Michel Apathy, notre confrère de RTL et de Canal+, et puis François Hollande. Voilà.
Non.
Et juste après, c'est.
Vous déconnez,
ah,
là.
Non, je vous jure. Et juste après, c'est.
J'ai jamais été sur mon tweet.
Alors, écoutez, juste après.
J'ai rempli ce qu'il fallait pour avoir un tweet, mais je ne sais pas m'en servir. Bon. Je suis con pour ça, je ne sais pas
juste,
du tout.
Juste après, il y a Passion Poney aussi.
Passion Poney, mais ça, c'est normal.
Voilà. Le Team Sarkozy, qui milite pour un retour de l'ancien président en 2017.
Non, vous déconnez, là.
Non, non, je vous jure, c'est vrai. Vous regarderez, c'est un compte officiel.
Comment je peux voir? Vous pouvez me le montrer?
Ah bah, je vous le montrerai tout à l'heure.
Voilà.
Il y a pas mal de foot démo aussi, le PSG. Voilà.
Ah bon?
Ouais, ouais. Ça vous ressemble assez, hein, dans l'ensemble.
Bien.
Il y a un site un peu, un site parodique aussi qui s'appelle Je t'encule Thérèse. Voilà, je vous le dis. Vous êtes abonné à ça aussi. Alors, vous tweetez assez peu, mais alors si vous dites que c'est pas vous, c'est encore moins ça.
Non, non. C'est-à-dire que je me suis inscrit.
Oui.
Suite à une copine qui tweet sans arrêt, je dis bon, alors si tu veux me lire, inscris-toi. Alors elle m'a inscrit. Puis après j'ai voulu rentrer dedans et mettre un truc. Et puis je me suis pris comme un manche, ça marchait pas comme je voulais. Donc j'ai dit bon bah je laisse tomber.
Vous avez lâché l'affaire.
Par exemple, le 4 janvier dernier, sur votre compte, vous déploriez le fait que NRJ 12 ait diffusé deux fois un épisode identique de Futurama. Est-ce que c'est vous ou pas?
Ah c'est pas moi, non, je vous jure.
Bon, bah, décidément il y a quelqu'un qui pirate.
Ouais, quelqu'un qui pirate, oui, bah, c'est pas moi. Non.
Bon, on va passer un peu là-dessus parce que visiblement c'est pas trop votre truc, mais pourtant c'est pas mal comme écriture Twitter. Je sais pas si vous avez qu'un
moment. Oui, c'est pas mal, mais il faudrait que je passe un quart d'heure avec vous, par exemple, vous me montrez, je saurais m'en sortir. Ouais. Mais d'un autre côté, je suis assez sauvage, moi. Donc, j'aime pas trop raconter ce que je fais. Je trouve que ça intéresse personne.
Mais cette contrainte de, vous savez que ce sont des messages en 140 signes. Et quand vous disiez tout à l'heure, une bonne chanson, on l'a fait en quatre phrases et tout, ou quatre lignes, tout doit être dedans. Il y a de ça quand même. Il y a cette espèce de contrainte qui amène plein de créativité formidable. Quand on apprend à utiliser l'outil.
François Hollande, mais qu'est-ce que vous...
Mais si, c'est dans vos... Dans
ça,
vos...
ça me fait marrer, je vais y aller, je vais lui envoyer un tweet.
Je suis pas sûr qu'il le lise, hein, mais en tout cas...
On vous montrera le compte après. Christophe.
Alors, à propos de votre rapport au public, là, je suis allé regarder un peu des vidéos de vous. Il y en a beaucoup, énormément d'interviews, etc. sur le net, sur YouTube notamment, et sur un site aussi, clubsardou.com, fan club absolu, où on trouve absolument toutes les vidéos, tous vos passages télé. Alors là, on est en 72, dans l'émission À bout portant, à l'époque vous avez pris un virage entre le chanteur engagé des Ricains des débuts. Là, à ce moment-là, c'est autre chose et vous expliquez ce changement.
Avant, j'arrivais en scène avec des messages dans le style « je vous apprendre à vivre, je vous apprendre à... »
Alors ça ne se rendait pas du tout, ça.
Puis, ils ont raison. Si quelqu'un arrive en scène, moi je suis dans la salle et que j'entends un tour de chant où le type m'envoie 14 messages sur 15 chansons, je m'emmerde. Mais honnêtement, je m'emmerde.
Et vous en envoyez un de temps en temps quand même maintenant?
Non, je n'en vois plus du tout. Alors maintenant, ça, les messages, c'est terminé.
Donc après, vous êtes revenu aux messages quand même. Là, c'était.
J'appelle pas ça des messages. Ouais. Moi.
C'était l'époque des balles populaires, hein, là. Donc,
j'appelle pas ça des messages. Moi, je n'ai pas le sentiment de. Enfin, c'est pris comme tel, je peux le comprendre, parce que c'est écrit d'une certaine façon. Mais je vais vous donner un exemple, par exemple, qui m'a fait rire, beaucoup rire. Quand j'ai écrit « Allons danser », c'était à l'époque de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy, en 2007. Bon, j'écris « Allons danser », c'est une chanson qui a marché, d'ailleurs, qui était bien. En fait, c'était une chanson qui portait sur « Arrêtez d'écouter les promesses, arrêtez d'écouter tout ça, allez danser, et ça ira, quoi, bon ». Et d'un seul coup, je lis quelque part, ou un peu partout d'ailleurs, c'est une chanson qui soutient le programme de Nicolas Sarkozy. C'était strictement l'inverse, puisque je disais, ce qui n'est pas très gratifiant pour moi, ça prouve que j'écris comme un manche. Parce que je disais, en fait, arrêtez de croire aux promesses, c'est du pipeau. Aller danser, ça ira mieux, quoi. Ça changera rien, tout du moins, en fait. C'était grosso modo mon idée. Et ça a été retourné de cette façon-là. Alors, bon, c'est de ma faute, certainement, hein, c'est pas de la faute de quelqu'un d'autre, mais le message proprement dit, je me mets pas sur ma table en vous disant « Mon petit père, je vais t'envoyer un truc vachement important. » Ça, c'est pas mon genre du tout. Ça vient comme ça. Alors, c'est pris comme ça. Bon, mais ça va pas plus loin que ça.
Alors maintenant, on va vous entendre face à la vénéneuse Denise Glaser. C'est à peu près la même époque. Hein,
oh la vache, elle était méchante, celle-là. Oula.
Alors, là, vous,
ça sort du cœur. Hein.
Vous définissez ce qui était votre état d'esprit, votre mode de vie du moment. On est en pleine montée du féminisme et on va voir pourquoi, dans ce mouvement-là, en tout cas, vous n'aviez pas beaucoup de fans.
Avec les bonnes femmes, il y a toujours un problème, il y a toujours quelque chose. On ne va pas se laisser aller vraiment dans des bonnes femmes, je trouve. Si on fait une soirée, enfin moi ce que j'appelle mes soirées, ce que j'aime bien.
J'étais jeune. Là,
moi j'aime finir ma soirée dans l'égout, moi, dans le ruisseau, ça se termine.
C'est dégueulasse de penser ça. J'étais môme, je disais n'importe quoi, j'ai des conneries.
Ça vole assez bas d'ailleurs, mais. Et s'il y a une bonne femme au milieu, bah c'est foutu, quoi, parce que ça suit pas.
Ça m'a coûté cher.
Finalement, c'est le pensionnat qui continue.
Oui, c'est le pensionnat qui continue, bien sûr.
C'est le pensionnat qui continue, c'est la caserne. Hein,
surtout. Mais où c'est dégueulasse, c'est que tu me prends, j'ai 19 ans, tu comprends. Aujourd'hui, je ferai.
Vous cherchez quand même un peu les ennuis à l'époque.
Non, mais je disais des conneries, comme on a 19 ans. Mais je veux dire, aujourd'hui, je tournerais ça très, très élégamment.
Non, mais si vous aviez 19 ans aujourd'hui, vous feriez pareil.
Oui.
Hein? Voilà. Donc,
Alors, on a parlé tout à l'heure des villes de grande solitude. Donc, vous avez dit que c'était un personnage quand même. Mais il y a des choses quand même dans cette chanson.
Les villes de solitude, j'étais un peu en avance, ce qui est toujours mauvais. Et c'était un scénario pour moi. C'était un peu Orange Mécanique. Je m'inspirais plus d'Orange Mécanique que des cités françaises, d'ailleurs. Et c'était à la fin de la chanson, il y a un mec tout seul dans son F2, je sais pas quoi, qui se bourre la gueule et qui se dit « j'ai envie de violer les femmes ». Bon. Alors évidemment, on sort là, on prend la phrase « il a envie de violer les femmes ». Mais pas le mec qui est dans son F2, moi, j'ai envie de violer les femmes. Or, j'aurais jamais un public que j'ai. Si j'avais fait une chanson sur « J'ai envie de violer les femmes ».
Il y a braquer une banque,
C'était dans la tête du mec. C'était un mec qui pétait les plombs, comme c'était dans Orange Mécanique. C'était cette bande de fous furieux.
Mais par exemple, aujourd'hui, quand on entend ça dans un morceau de rap, ça fait un scandale d'État. Est-ce que vous êtes pour la liberté d'expression absolue?
Oui, parce que bon...
Parce que c'est le même procès.
Il n'y a qu'une seule chose que je n'aime pas, c'est l'insulte. Parce que les chansons ne sont pas faites pour ça. Mais les chansons attaquent. Vous savez d'où vient le mot bleuette? Vous savez ce que c'est qu'une bleuette? Certainement, non?
Je pensais que c'est une fleur, mais non.
Non, c'était à l'époque de Mazarin. C'était des chansons qui attaquaient le gouvernement de Mazarin, qui l'accusaient de se taper la reine, de tous les mots, enfin, etc. On l'écrivait sur des papiers bleus. Et ça circulait de main en main, comme ça. Et on appelait ça des bleuettes. Et aujourd'hui, quand on dit on a écrit une bleuette, on pense à une chanson d'amour gentil, à un truc léger, etc. Or, c'était très violent. Ce que je n'aime pas, c'est l'insulte et la grossièreté dans les chansons. Le reste, mon Dieu, bah, vous prenez vos responsabilités. Le rap, on sait ce que c'est violent. Bon, ça va avec le monde où ils sont. Moi, je ne peux pas vous dire que je suis un fan de rap, je ne peux pas vous dire que j'aime de temps en temps des rythmiques, puisqu'il y a des rythmiques très intéressantes dans le rap, mais je ne me taperai pas un concert de rap.
Mais le parallèle que fait Christophe à votre époque, c'était le rap de l'époque. Je veux dire, vous n'aviez pas conscience que ça allait forcément tiquer.
Non, mais
que
si les... on sort la phrase, évidemment, si vous ressortez la phrase.
Non, mais Christophe a raison, c'est pas juste j'ai envie de violer les femmes, mais c'était.
Si vous sortez le couplet, le refrain, peu importe. Mais c'était un petit film, c'était un. C'est ce que je dis toujours, c'est un personnage, c'est pas. On joue un sketch, en fait, un sketch chanté. Maintenant, qu'est-ce que je vous dise à côté de ce qui se passe aujourd'hui, j'étais très en dessous de la vérité. Mais j'étais plus. Ma direction, c'était Orange Mécanique. J'avais vu le film. Et c'était
ça s'entend d'ailleurs. Hein, dans les
et c'était ça, qui m'avait inspiré cette espèce de violence dans cette chanson.
Et cette violence sociale, justement, d'aujourd'hui, dans une crise qui est abominable, elle vous inspire encore?
Écoutez, j'essaie de ne pas être opportuniste.
Non, mais ça pourrait.
Bien sûr que ça me fait quelque chose. Bien sûr que j'y suis sensible. Bien sûr que j'écoute ce qui se passe. Bien sûr que je suis à l'écoute de ce qu'on dit. Où je lis les journaux. Mais si vous voulez, d'un seul coup, se jeter sur l'actualité et en faire une chanson, je trouve ça un peu facile. Je préfère attendre quelques années.
Christophe.
Quelques années plus tard, hein, vous avez toujours des envies de meurtre. On va écouter un son qui ne va peut-être pas vous faire plaisir parce que je pense qu'on vous en a beaucoup parlé. Pas tout à fait, mais en tout cas, c'est ce que ça veut dire. C'était chez Marc-Olivier Fogiel sur France 3. Là, vous vous exprimez sur un sujet sur lequel on a fait beaucoup de reproches à une de vos chansons à une époque. Écoutez.
Tu vas recevoir un homme. Son fils a été tué, violé.
Non, il n'a pas été tué.
Pas violé. Ouais. D'autres ont été tués, et beaucoup. D'accord? Ça m'arrive à moi, ça vous arrive à vous, ça t'arrive à toi, ça t'arrive à toi. Si tu peux choper le mec, qu'est-ce que tu lui fais? Tu vas penser à la loi? Tu vas penser une seconde à la morale? La morale de quoi? Ouais, mon cul, je lui tire une balle dans la tête.
C'est tout.
Il n'y a pas de où, c'est ce que je ferais.
Donc là, c'est un peu violent quand même.
Oui, mais j'avais un public de cons. Attends, j'arrive, les mecs, j'ai sifflent. Là, et ce que je dis, je le renie pas. honnêtement.
Mais pour un personnage public, prendre une position comme ça sur l'autodéfense...
Mais personnage public, je suis un artiste, je ne suis pas un personnage public.
Ouais, mais les gens vous écoutent quand même.
Je suis persuadé que la peine de mort ne dissuade pas. Bon, on a exemple aux États-Unis, par exemple, dans les États où il y a la peine de mort, malheureusement, ça ne se dissuade pas. Bon. Donc, si vous voulez, le malentendu venait, je me suis expliqué 25 fois là-dessus, sur qu'en fait, j'avais fait une chanson sur la loi du talion, et non pas sur la peine de mort. Seulement, comme j'étais, j'avais 20 piges, je l'avais appelé « Je suis pour ». Gilles Thibault me dit « Tu devrais changer le titre, tu vas être emmerdé ». Et comme j'avais 20 ans, évidemment, j'étais le roi du monde, j'étais le plus intelligent, j'étais le plus beau, j'étais le plus fort. Je dis, je fais ce que je veux et je t'emmerde. Bon. Donc je sors, je suis pour. Et c'est lui qui avait raison, on m'en parle encore aujourd'hui, la preuve. Et ça fait pourtant un bout de temps que je l'ai sorti. Seulement, la réaction humaine, moi, mon idée, c'était ça. J'avais des enfants petits. J'ai eu, malheureusement, une de mes filles qui a été enlevée et violée. Bon. Donc je sais ce que ça coûte. Je sais ce qu'elle a vécu. Je sais comment elle a... Même encore maintenant, quel mal est là à revenir de cette petite mort. Parce que pour moi, c'est une petite mort. Je peux vous jurer que si j'avais pu mettre la main sur ces enfoirés qui me l'ont enlevé, j'aurais fait, peut-être pas les tuer, exagérons pas, mais j'aurais quand même mis une bonne raclée, quand même. Hein, ils auraient été longtemps, longtemps malades. Hein, voilà. Mais c'était ça, la chanson. La connerie, c'est que je me suis obstiné à l'appeler « Je suis pour ». Et alors, par-dessus tout, arrive l'affaire Patrick Henry. Comment voulez-vous que je devine qu'il allait avoir l'affaire Patrick Henry au moment où j'écris la chanson? Bon, parce que la chanson, je l'avais écrite 8 mois avant. Donc évidemment, tout le monde s'est servi de ça. Et me le resserre encore 40 ans après, c'est formidable. Et Fogiel, bon, avec son public de merde, en plus moi je me laisse pas faire ni par le public, ni par la télévision, ni par Fogiel surtout. Et donc je dis ce que je pense, c'est tout. J'ai été un peu rude.
Oui, un peu.
Bon, un peu.
Simplement juste d'un mot sur cette justice sauvage, ça veut dire que clairement vous n'accordez aucun... enfin je veux dire, la justice... officiel n'a pas plus de valeur que ça.
Attendez. C'est une chanson.
Non, mais même ce que vous dites dans le cas de votre fille.
Il y a des moments où on pète.
L'aspect réparateur de la justice, c'est quand même.
On peut péter les plombs. Les types ont été condamnés, ils sont sortis 3 ans après. Hein, ça s'est passé il y a 15 ans, peut-être, chose comme ça. Elle, elle n'est pas ressortie. D'accord ? Elle est toujours dedans.
Alors, si elle avait pu affronter son violeur en face dans une cour d'assises...
Il y a eu un gendarme formidable qui les a retrouvés. Bon, ils ont été... Ils ont été jugés, on les a mis en prison. Seulement 3 ans après, ils sont sortis. Alors, je veux bien, on supprime la peine de mort, on supprime tout ça, dans la mesure où votre enfant est concerné, c'est quelque chose que c'est plus fort que vous. C'est un réflexe qui remonte à la nuit des temps. C'est un réflexe de vengeance, en fait. C'est tout simplement la vengeance qui revient. C'est pas tellement la haine, c'est pire que ça. Et alors, évidemment, la loi canalise ça, tant mieux. Mais cela dit, je vais pas me faire justice moi-même, surtout, je vais pas sortir mon flingue à chaque fois qu'un mec m'emboutit ma bagnole.
On espère.
Non, quand même, faut pas charrier. Mais là, dans un cas précis comme ça, dans un cas aussi grave que ça, je trouve que ma réaction était normale. Bon, maintenant, la chanson n'était pas... C'était pas un sujet de chanson, en gros. Voilà, la connerie, c'est que c'était tout, sauf un sujet de chanson. J'aurais pu en parler, peut-être, à la limite, entre nous, comme ça. On aurait pu faire une émission, vous dire ma position, recevoir une contradiction, etc., au lieu d'en faire une chanson. Et surtout, une chanson qui a pris une valeur considérable à cause de l'affaire de l'abruti, là.
Bon, il va être l'heure de nous séparer, Michel Sardou. J'avais plusieurs questions d'auditeurs, notamment, il y avait Pauline Graziani qui voulait savoir quel grand standard vous auriez aimé créer du répertoire des autres. Est-ce qu'il y en a un comme ça ?
La fille du Panama.
Ah oui, pas mal.
Bon choix.
Ah,
ça, c'est grand. Ça.
Et un chanteur ou un artiste pour reprendre l'une de vos chansons ?
Bon, ça me dit n'importe qui.
Vous auriez aimé que qui reprenne ?
Peu importe. Moi, je sais pas, j'ai jamais pensé.
Bon, et puis il y a Valérie Alamo qui vous signale que le club de foot de l'Est Nancy-Lorraine a repris Rouge. Vous savez ça, comme hymne ?
Ah bon ?
Oui. Ça vous touche ?
Bon, ça me fait bien énorme.
Vous êtes foot ?
Non.
Non, pas du tout.
Je suis rugby, je suis désolé.
Bon, 5 concerts à l'Olympia, 5 dates du 7 au 12 juin avec Europe 1, prolongation donc de la tournée pour vos 45 ans de carrière. Vous allez tourner ensuite beaucoup et le double best-of évidemment est toujours en vente, les grands moments de. Merci infiniment Michel Sardou d'être passé nous voir
merci.
Dans des clics et des claques.
On aurait pu finir sur une chanson qui est un peu dure quand même, on aurait pu finir sur un.
C'est pour ça qu'on a fini sur du foot.
Oui.
Hein sur le foot. Puisque vous aimez le foot, c'est ça.
Oui, oui. j'aime mettre à regarder les matchs de foot.
Allez écoutez le Connemara et toutes les autres. Il y en a plein de belles dans ce double album best-of. Merci beaucoup. On va s'interrompre pour les infos puisqu'il est 22h.